Chapitre 2. Cependant, outre le jeune Gaston, le comte de Foix avait un fils bâtard nommé Yvain qui était élevé au château d'Orthez. Les deux enfants se firent grande fête car ils étaient encore à cet âge où l'on ignore la jalousie de rang et de naissance. Et suivant leur habitude, le soir même du retour de Gaston, ils partagèrent la même chambre et le même lit. Le lendemain, comme Gaston, fatigué du voyage, dormait plus tard et plus profondément que de coutume, Yvain voulut voir comment lui irait la belle cotte brodée de son frère. En l'essayant, l'enfant sentit la bourse qu'avait donnée le roi de Navarre à son neveu, et l'ayant ouverte par curiosité, il vit la poudre qu'elle renfermait. En ce moment, Gaston se réveilla et machinalement étendit la main vers ses habits. Yvain referma vivement la bourse. Gaston se retourna et aperçut son frère vêtu de sa cotte. Alors, se rappelant la recommandation de son oncle et craignant que tout ne fût perdu si Yvain se doutait de quelque chose, il redemanda avec humeur son habit. Yvain le lui jeta, tout fâché. Gaston se vêtit en silence et tout ce jour demeura si pensif que plusieurs fois le comte lui demanda ce qu'il avait. Mais aussitôt l'enfant se mettait à sourire, secouant sa blonde tête, comme pour en faire tomber une pensée trop lourde pour son âge, et il répondait qu'il n'avait rien. 3 jours après, Gaston et Yvain jouaient à la balle, et comme si Dieu lui-même eût voulu sauver le comte de Foix, il arriva que les deux enfants se prirent de querelle à propos d'un coup douteux, et que Gaston, qui tenait de son père un sang ardent et un caractère emporté, donna un soufflet à Yvain. Celui-ci, qui sentait sa faiblesse et sa position inférieure vis-à-vis de son frère, au lieu de lui rendre coup pour coup, comme il l'eût fait si tout autre de ses amis l'eût frappé, s'enfuit du préau, puis entra tout en larmes dans la chambre de son père et le trouva comme il venait d'entendre la messe, ce qu'il ne manquait pas de faire chaque matin. En voyant Yvain ainsi éploré, le comte lui demanda ce qu'il avait. « Gaston m'a battu, répondit l'enfant, et cependant, je jure Dieu, mon seigneur, que si l'un de nous deux mérite d'être battu, ce n'est pas moi. » « Et pourquoi cela ? » dit le comte. « Parce que, monseigneur, continua l'enfant, depuis qu'il est revenu de Navarre, il porte sur sa poitrine une bourse pleine de poudre qu'il ne laisse voir à personne, et qu'il ne cache pas ainsi sans mauvaise intention. » « Dis-tu vrai ? » s'écria le comte, qui commença à prendre quelques soupçons, d'autant plus qu'en ce moment la préoccupation de son fils lui revint en mémoire. « Vrai sur mon âme, répondit Yvain, et vous pouvez vous en assurer, monseigneur, si tel est votre plaisir. »« C'est bon, dit le comte, ne parle à personne au monde de ce que tu viens de me raconter. « Monseigneur, dit l'enfant, il sera fait ainsi que vous le désirez. » Le comte de Foix vivait dans des temps où la vie n'était qu'une longue lutte. La mort, presque toujours présente et apparaissant sous mille faces, rendait l'homme le plus confiant de sa nature, soupçonneux à l'égard de ses serviteurs, les plus fidèles et de ses parents les plus proches. Il demeura donc toute la matinée préoccupé de ce que lui avait dit Yvain. L'heure du dîner arriva. Le comte se mit à table, Gaston, selon son habitude, lui présenta à laver, puis alla s'asseoir pour découper les viandes qu'il venait de servir à son père, après en avoir fait l'essai. Comme il remplissait cet office, le comte le regarda attentivement et vit les cordons de la bourse sortir entre deux boutons par l'ouverture de son habit. Aussitôt le sang lui monta au visage, car il demeurait prouvé que l'accusation d'Yvain était vraie. Il ne voulut donc pas attendre plus longtemps et résolut de tout éclaircir sur l'heure. « Gaston, dit-il, viens ici, car j'ai un mot à te dire à l'oreille. » Gaston, sans défiance, se leva et s'approcha de son père. Alors le comte, tout en lui parlant, déboutonna l'habit et, prenant d'une main la bourse et de l'autre un couteau, il coupa les cordons qu'il attachait si bien qu'elle lui resta dans la main. Puis, la montrant à son fils, il lui dit d'un ton sévère « Qu'est-ce que cette bourse et que voulez-vous faire de la poudre qui est dedans ? » L'enfant ne répondit rien, mais se sentant coupable, il devint pâle comme la mort et commença de trembler de tous ses membres. Le comte, de plus en plus convaincu des mauvaises intentions de son fils, par son trouble et par sa terreur, ouvrit la bourse, prit une pincée de poudre, la mit sur une tranche de pain imbibée de jus de viande, et, sifflant un lévrier qui était près de lui, il la lui donna à manger. À peine le chien eut-il avalé le morceau de pain que les yeux lui tournèrent dans la tête et que, se couchant sur le dos, il roidit les pattes et expira. Le comte de Foix ne pouvait conserver aucun doute. Aussi entra-t-il dans une grande colère et s'adressant à Gaston, stupéfait et anéanti. « Ah, traître, dit-il, pour conserver et accroître un héritage qui devait te devenir, j'ai eu haine et guerre du roi de France, du roi d'Angleterre, du roi d'Espagne, du roi de Navarre et du roi d'Aragon, et voilà que pour ma récompense tu me veux empoisonner. Oh, c'est d'une infâme et mauvaise nature, et sur mon âme je vais te tuer à l'instant comme je ferais d'un reptile venimeux ou d'une bête féroce. » À ces mots, il s'élança de table, un couteau à la main, et il allait égorger l'enfant, car celui-ci ne faisait aucune tentative pour se soustraire au coup mortel, se contentant de regarder son père et de verser de grosses larmes. Mais les chevaliers et écuyers qui se trouvaient là tombèrent à genoux, les bras étendus vers le comte, et criant « Monseigneur, pour Dieu, ayez pitié, ne tuez pas Gaston, monseigneur, car vous n'avez pas d'autre enfant à qui léguer votre nom et votre héritage. Faites-le garder soigneusement et informez-vous comment et par qui la chose a été conduite. Peut-être ne savait-il même pas ce qu'il portait. » C'est bien, dit le comte, nous informerons, puisque vous m'en priez avec tant d'insistance, en attendant qu'on le conduise à la tour et qu'il soit tellement gardé qu'à toute heure du jour ou de la nuit, on m'en rend de bon compte. Les serviteurs obéirent et l'enfant fut conduit dans la tour d'Orthès. Alors le comte fit arrêter tous ceux qu'il soupçonnait de complicité ou de non-révélation, et le nombre en fut considérable. 15 écuyers eurent la tête tranchée et quelques vilains furent pendus. Le jeune Gaston ignorait tout le sang qui se versait. Or, comme toutes ces exécutions n'avaient rien révélé, le comte de Foix convoqua à Orthès une assemblée de tous les nobles barons et des prélats de Foix et de Béarn. Lorsqu'ils furent réunis, il leur exposa le fait, leur raconta comment son fils avait voulu l'empoisonner, leur présenta la bourse et la poudre, et renouvela l'essai du lévrier sur plusieurs animaux qui, ainsi que le chien, moururent à l'instant. Cependant, comme Gaston était fort aimé, et que l'on ne pouvait croire un enfant si jeune capable d'un si grand crime, toute l'assemblée intercéda pour lui. Les prières de ces étrangers eurent un écho puissant dans le cœur du père. Aussi le comte de Foix promit-il solennellement et avec plus de facilité qu'on ne l'espérait que le jeune comte Gaston aurait la vie sauve. Pour toute peine, il devait être détenu pendant quelques mois en prison. Puis il devait voyager pendant 2 ou 3 ans jusqu'à ce que ce mauvais naturel qui s'était manifesté d'une manière si subite et si inattendue fût corrigé par l'âge et par la raison qui vient avec lui. Cependant, le pauvre enfant était toujours enfermé au château d'Orthez, dans une chambre où le jour pénétrait à peine. Toutes les questions qu'on avait pu lui faire n'avaient rien tiré de lui. Car, tout jeune qu'il était, il comprenait que ses aveux, en les disculpant, devaient accuser son oncle et sa mère, et il connaissait si bien la haine que leur portait le comte, qu'il aima mieux voir toute cette colère s'épuiser sur lui que frapper des parents qui lui étaient chers. Cependant, son malheur lui paraissait si grand qu'il n'y voulut pas survivre. Il résolut donc de se laisser mourir de faim. Et lorsqu'on lui apportait son dîner, il disait au serviteur « Mettez-le là », mais il n'y touchait point. Et lorsque le serviteur était sorti, il le jetait dans un coin de sa prison. Or, ainsi que nous l'avons dit, comme il faisait sombre dans sa prison, ceux qui étaient chargés du service ne pouvaient s'apercevoir que de jour en jour l'enfant était plus pâle. Il arriva qu'au bout de 10 jours, revint le tour d'un des serviteurs qu'il aimait le plus. Il lui présenta son dîner comme d'habitude, et comme d'habitude, Gaston lui dit « Mettez-le là ». Mais ce jour-là, il y avait une telle faiblesse dans la voix de Gaston que le vieux serviteur l'entendit à peine. Soupçonnant que le jeune prisonnier se laissait aller à une mélancolie funeste, tout en déposant le plateau où l'enfant le lui avait dit, il regarda tout autour de lui. Comme ses yeux commençaient à s'habituer à l'obscurité, il vit dans un coin tous les pains et toutes les viandes qu'on avait apportées depuis 10 jours. Quant à l'eau et au vin, Gaston les renversait sur le sol et c'était la terre qui les buvait. Cependant, le serviteur ne dit rien de ce qu'il avait remarqué et remonta vers le comte. Il le trouva sombre et silencieux, comme il était toujours depuis ce malheur auquel il ne pouvait rien comprendre. Lorsqu'il entra, le comte achevait sa toilette et se nettoyait les ongles avec un petit couteau à lame mince et aiguë. Quoiqu'il eût entendu ouvrir la porte, il ne se retourna point, de sorte que le vieux serviteur vint jusqu'à lui. Monseigneur, lui dit-il, pour Dieu, prenez pitié de votre fils, notre gentil maître. Voir, répondit le comte, qu'a-t-il donc fait de nouveau? Rien, monseigneur, continua le vieillard, mais il est tombé dans une mélancolie trop profonde pour un enfant de son âge. Tant mieux, reprit le comte, c'est que Dieu lui fait la grâce de se repentir. Sauf votre bon plaisir, monseigneur, je ne crois pas qu'un si gentil enfant est à se repentir d'aucune chose au monde. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit. Prenez garde, monseigneur, car je crois que votre fils s'affame. Que dites-vous là? S'écria le comte. La vérité, j'en ai grand crainte, monseigneur. Et je crois qu'il ne mange aucune chose depuis qu'il est entré en prison. J'ai vu tous les mets qu'on lui a servis jetés dans un coin de sa chambre. Ah, fit le comte, nous voyons cela par nous-mêmes. Et il descendit, sans prendre le temps de poser le petit couteau de toilette dont il tenait la lame entre le pouce et l'index de la main droite, si près de son extrémité que la pointe n'en sortait guère, dit Froissart, que de la longueur d'un gros tournois. Tout faible et mourant qu'était le pauvre prisonnier, il reconnut le pas de son père et se souleva sur son lit. Au même instant, la porte s'ouvrit et le comte de Foix parut. En entrant, il jeta un regard autour de lui et vit, sur une table, assez éloignée du lit où était l'enfant, le dîner tel qu'on le lui avait apporté, car il était si débile qu'il n'avait pu se lever pour jeter les mets comme s'il les eût mangés et renverser le vin et l'eau comme s'il les eût bu. Cependant, la vue de son père lui rendit des forces et il se jeta à bas de son lit. Ah, traître, lui dit le comte, ce n'était point assez pour fâcher Dieu que de vouloir m'empoisonner. Tu veux encore te faire mourir par la famine, pourquoi ne manges-tu pas? Mon père, s'écria l'enfant en se précipitant dans ses bras. Va-t'en, dit le comte en le repoussant, va-t'en, mauvais fils, je ne te reverrai que tu n'aies mangé. L'enfant jeta un faible cri, porta la main à son cou et alla tomber dans un coin de la chambre, le visage tourné contre la muraille. Le comte sortit. À peine était-il rentré dans sa chambre que le vieux serviteur qui était venu lui apprendre que son fils ne mangeait point et qu'il avait accompagné à la tour revint à lui, mais plus pâle encore et plus tremblant que la première fois. Qu'y a-t-il? dit le comte. Monseigneur, Gaston est mort. Mort? S'écria le père en se levant, debout et en pâlissant et tremblant à son tour. Comment est-il mort? Hélas, je ne sais, répondit le vieillard, mais lorsque vous avez été parti, voyant qu'il ne se relevait pas, je me suis approché de lui, et sous la main qu'il tenait à son cou, j'ai trouvé une plaie comme celle qu'aurait pu faire la pointe d'une fine épée. Le comte jeta les yeux sur le couteau qu'il tenait encore. Il y avait une gouttelette de sang à la lame. Le comte Gaston Phoebus avait tué son fils bien-aimé, le seul héritier de son nom et de sa fortune. Voilà pourquoi, à l'époque où commence cette histoire, il avait tant de cheveux blancs sur la tête et tant de rides au front. Voilà pourquoi il avait un retrait tout rempli d'oraisons où il se renfermait 1 heure par jour pour y dire les heures de Notre-Dame, les litanies des saints et les vigiles des morts. Voilà pourquoi, enfin, il tressaillit si fortement lorsqu'on frappa à la porte du château d'Orthès, car tout en écrivant le 63e chapitre de son ouvrage sur la chasse des bêtes sauvages et les oiseaux de proie, il pensait à son pauvre petit garçon qui reposait à cette heure dans la chapelle des frères mineurs à Orthès, tandis que son frère bâtard, Yvain, guerroyait avec les Castillans contre le roi Jean Ier de Portugal.